Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14 au sommaire. Les ravages de l'obésité en Europe, c'est une conséquence sous-estimée de la pandémie qui nous a tous immobilisés. L'OMS publie ce midi ses derniers chiffres, nous les détaillons dans une minute. Ce coup de tonnerre aux États-Unis, la Cour suprême s'apprêterait à revenir sur une décision vieille d'un demi-siècle. L'arrêt qui autorise l'avortement pour les Américaines, onde de choc dans le pays après ces révélations. Manifestation des pros et des anti-IVG, nous serons à Washington et nous appellerons le spécialiste des États-Unis, Corentin Célin. À la une également, la tortue Mélenchon qui progresse vers un accord avec l'ensemble de la gauche. Après les Verts, les communistes sont sur le point de valider un accord avec les insoumis pour les législatives. Devenir député, à quoi bon? C'est la question que pose Annie Chapelier. Députée élue sous l'étiquette La République En Marche il y a 5 ans, elle ne se représente pas. Elle publie Un Parlement en toc, une charge violente contre le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Elle est notre invitée à 13h30. J'attends vos questions pour elle au 01 45 24 7000. Emmanuel Macron, lui, s'entretient en ce moment avec Vladimir Poutine. Premier échange entre les deux hommes depuis la réélection du président français. Dans le vif de l'histoire avec Jean Lebrun, gros plan sur une région dont on parle beaucoup depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La Transnistrie. Pour assurer son approvisionnement en gaz, la France se tourne à nouveau vers les États-Unis. Engie vient de conclure un accord pour importer du gaz liquéfié issu du gaz de schiste. Nous verrons également que le nombre de personnes purgeant une peine en France atteint des records en ce printemps. Et puis les 2m13 qui font rêver le basket français, le Camerounais Joël Embiid pourrait porter le maillot de l'équipe de France lors des prochains JO. C'est tout simplement l'un des meilleurs basketteurs du monde. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Des adolescents américains aux larges t-shirts qui abusent des burgers et des sodas. Voilà l'image qu'on a longtemps eue de l'obésité, cette maladie que l'on pensait réservée aux États-Unis et à leur malbouffe. Le cliché vole en éclats avec ce rapport de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui publie ce midi les chiffres des morts provoquées par l'obésité chez nous. En Europe, 1 200 000, c'est-à-dire autant que le Covid l'an dernier. 60% des adultes sont concernés, presque un enfant sur trois. Bonjour Jérémy Lanche.
Bonjour.
Jérémy, la pandémie a aggravé cette situation.
Oui, mettre fin à l'augmentation du surpoids avant 2025, c'était l'objectif affiché de l'OMS, et c'est finalement tout l'inverse qui s'est produit, à tel point que l'agence parle d'épidémie d'obésité en Europe. La pandémie n'est pas la seule responsable, mais elle a noirci un peu plus le tableau, explique Kremlin Vikramasinghe du bureau Europe de l'OMS.
Les mesures que nous avons prises pour lutter contre le virus ont limité les opportunités pour les enfants de se dépenser à l'école et de jouer dehors. À l'inverse, on a augmenté le temps passé derrière les écrans ou assis à travailler depuis la maison. Et nous savons que ça augmente le risque d'être obèse.
La part de personnes obèses ou en surpoids est plus forte en Europe de l'Ouest. La France, elle, se situe dans la moyenne. La France qui fait partie des pays qui ont appliqué une taxe sur les produits sucrés, à juste titre, estime l'OMS.
Si vous regardez les pays qui ont appliqué cette taxe, on voit que les industriels ont revu la composition de leurs produits pour les rendre moins sucrés. Les prix de ces produits ont augmenté et donc leur consommation a baissé.
Autre piste évoquée, l'allaitement qui limite le risque de devenir obèse et la lutte contre le marketing agressif des géants de l'agroalimentaire qui ciblent les jeunes sur les réseaux sociaux et même dans les jeux vidéo. À Genève, Jérémy Lanche, RFI pour France Inter.
Sans oublier, parmi les remèdes, la pratique d'une activité physique régulière, et on en revient aux conséquences du Covid dont on reparlera dans la suite de ce 13-14. Elle s'appelait Norma McCorvey. Elle est décédée il y a 5 ans, en 1969, après avoir été interdite d'avorter par l'État du Texas. C'est elle qui avait saisi la justice américaine sous le pseudonyme de Jane Roe. 4 ans plus tard, 1973, la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, lui donnait raison en vertu de son droit à l'intimité. Une femme pouvait légalement mettre fin à une grossesse. C'est cet arrêt historique, l'arrêt Roe contre Wade, que la même Cour suprême s'apprête donc à annuler, si l'on en croit les révélations du site d'information américain Politico, dans une fuite de documents qui est rarissime aux États-Unis. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis. Sébastien, qu'y a-t-il dans cet avant-projet révélé dans la presse ?
Alors, le texte que s'est procuré Politico est adressé par l'un des juges de la Cour, le conservateur Samuel Alito, à ses collègues. Il est intitulé « Avis de la Cour ». Il est daté du 10 février dernier. Il fait un peu moins de 100 pages. Et il est très clair, ce document. Le juge Alito écrit dans ses conclusions que le droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la nation, qu'il n'est pas protégé par la Constitution et que donc Roe contre Wade, dont vous venez de parler, doit être annulé. Ce droit qui légalise l'avortement au niveau fédéral et qui est grignoté depuis des mois, depuis que l'équilibre de la Cour suprême est en faveur des conservateurs, avec 6 juges dont 3 nommés par Trump contre 3 progressistes. Si cet arrêt est annulé au final par la Cour, elle doit se prononcer d'ici l'été, eh bien l'Amérique reviendra à la situation d'il y a quasi 50 ans, quand chaque État décidait d'autoriser ou pas l'IVG. Les États conservateurs du Sud et du Centre, comme le Texas, on en a beaucoup parlé, le Mississippi, d'autres, ont déjà commencé ou vont faire voter des lois pour restreindre ce droit. Il est déjà remis en cause au total aujourd'hui par près de la moitié des États américains.
Et Sébastien, ces fuites ont dès hier soir fait descendre des manifestants dans la rue.
Ouais, fuite d'ailleurs quasi inédite dans l'histoire de la Cour suprême. Vous en parliez jusqu'ici, les délibérations internes, puisqu'il s'agit de ça, des juges, sont toujours restées secrètes. Les révélations de Politico donc font beaucoup de bruit ici. Et en effet, dès que le document a été rendu public hier soir, eh bien des manifestants se sont spontanément rassemblés devant la Cour suprême, derrière le Capitole ici à Washington. Barrière installée devant la Cour. Des manifestants des deux camps d'ailleurs, essentiellement des partisans du droit à l'avortement, scandalisés par ce projet de décision. Des femmes avec des bougies et des pancartes. Mon corps, mon choix, mais aussi quelques opposants à ce droit qui sont venus déjà crier victoire. Roe, c'est fini, voilà ce qu'on lisait sur leur pancarte à eux. La classe politique aussi est polarisée et la Maison Blanche devrait publier un communiqué dans la journée.
Explication signée Sébastien Pao en direct de Washington pour Inter. Pour comprendre les enjeux de ces révélations et leurs conséquences, nous sommes en ligne avec le spécialiste des États-Unis, professeur agrégé d'histoire. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Corentin, c'est la première surprise pour vous, je suppose, et Sébastien Paour en parlait, des documents qui fuitent de la Cour suprême, le Saint des Saints aux États-Unis, c'était inenvisageable.
Oui, c'est la stupeur complète et à tout vous dire, ce matin quand j'ai découvert ce document, je n'en croyais pas mes yeux. C'est la première fois qu'une opinion dans son intégralité, alors opinion pour l'instant au brouillon, mais dans son intégralité est ainsi publiée. Il faut savoir que la Cour suprême prend des mesures drastiques pour préserver la confidentialité des délibérations et de la rédaction des opinions. C'est donc la première, effectivement, le premier choc, c'est d'avoir cette opinion révélée dans son intégralité. Reste à savoir, évidemment, si c'est l'opinion définitive de la Cour, et c'est désormais tout l'enjeu.
Ça peut traduire quoi? La volonté peut-être de certains en interne de faire lever une opposition à cette décision à venir?
Oui, c'est plus que certain. Alors évidemment, il faudra aussi attendre que ce document soit définitivement authentifié, mais il est très peu probable que des faussaires se soient amusés à reproduire tant de pages d'opinions expertes. Hein. On reconnaît bien la plume du juge conservateur Alito. Mais maintenant, c'est effectivement une fuite qui est dirigée pour faire pression sur ces juges, parce qu'il faut savoir que ils peuvent encore changer d'avis. On devine qu'il y a eu un premier vote entre les 9 juges de la Cour suprême, que ce vote donc sur cette décision Dobbs a donné lieu à la rédaction de ce brouillon, mais tant que l'opinion définitive n'est pas publiée, il peut y avoir un juge qui change son vote. Donc, évidemment, cette fuite est intentionnelle pour faire pression sur les juges conservateurs. Cependant, la rédaction de cet avis, de cette opinion par Alito est tellement dure contre le droit à l'avortement et montre une telle conviction anti-avortement de la majorité, sans doute des 5 juges conservateurs sur 9 qui auront décidé de revirer la jurisprudence Roe, la conviction paraît telle qu'on se demande bien sur lequel des 5 on pourrait faire pression. Il faut bien comprendre que ces 5 juges-là sont connus depuis très longtemps pour leur opposition à la jurisprudence Roe.
Corentin Célin, beaucoup d'États américains ont pris des mesures ces derniers mois contre l'avortement, la Floride, l'Idaho, l'Oklahoma, le Texas, entre autres. Est-ce que ça reflète l'évolution de l'opinion publique américaine qui serait aujourd'hui opposée ou pas à l'avortement ?
Alors non, pas du tout. Aujourd'hui, justement, c'est ça qui est très surprenant. C'est qu'aujourd'hui, il y a tous les sondages, hein, le montrent vraiment. Il y a une majorité d'États-Unis qui ne souhaitent pas le revirement de la jurisprudence Roe, qui ne souhaitent pas que la Cour suprême déclare le droit à l'avortement non protégé par la Constitution. Ce que cela montre, par contre, c'est que au sud des États-Unis, il y a une nouvelle révolution conservatrice en cours, et que cette nouvelle révolution conservatrice vise clairement ce changement de jurisprudence de la Cour suprême. Et si ces États du Sud peuvent l'obtenir, ensuite ils auront la main libre pour interdire l'avortement sur leur territoire. Il faut bien comprendre qu'il y a 13 États, au minimum 13 États, si jamais la décision va au bout, qui interdiront du jour au lendemain le droit à l'avortement.
Merci à vous, Corentin Sedelin, pour cet éclairage dans ce 13-14 sur Inter, spécialiste des États-Unis, professeur agrégé d'histoire. 5 questions sur la possible annulation du droit à l'avortement aux États-Unis. C'est à lire également sur franceinter.fr. J'ajoute que, coïncidence, quelques heures seulement avant ces révélations, l'entreprise Amazon a annoncé qu'elle allait rembourser les frais de déplacement de ses salariés contraintes de se déplacer pour avorter dans un autre État que le leur.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Et de deux ou presque à gauche, après l'accord entre les Insoumis et les Verts, hier la coalition prend forme puisque les communistes vont taper dans la main de Jean-Luc Mélenchon en vue des élections législatives. Bonjour Julie Drouin.
Bonjour.
Vous êtes en direct du siège de la France Insoumise à Paris. L'accord entre les deux est sur le point d'être finalisé.
Et oui, une gauche de plus. Le chef de la délégation du PCF, Igor Zamichil, a annoncé l'exécutif national vient de donner un mandat favorable pour finaliser le projet avec l'Union populaire. Accord sur la stratégie, sur le programme et les circonscriptions. Ils en obtiendraient une cinquantaine, dont une vingtaine gagnables. En tout cas, la promesse de Jean-Luc Mélenchon de garantir un groupe à chaque formation serait tenue pour le Parti communiste. Le projet sera soumis au Conseil national à 15h pour une annonce officielle en fin de journée. Après Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste s'apprête donc à rejoindre cette nouvelle Union populaire.
Les socialistes sont eux aussi, Julie, arrivés à la table des négociations. Ils sont les derniers, on imagine que la pression est grande désormais sur leurs épaules.
Oui, les socialistes qui discutent depuis plusieurs jours sans discontinu. Quand les communistes semblent avoir réglé tout cela en quelques heures, il ne manque plus que les socialistes, nous dit la députée européenne LFI Manon Aubry. L'histoire est en train de s'écrire, à eux d'en faire partie, mais les discussions ne sont pas faciles. Il reste de nombreux points de tension sur la répartition des circonscriptions. On en serait à 70 pour le PS, mais aussi sur le programme. L'accord avec le PS peut encore échouer, affirme Manuel Bompard. Si les discussions n'aboutissent pas d'ici la fin de journée, les socialistes ne seront pas intégrés à cette nouvelle union. La France insoumise met donc la pression aux négociateurs socialistes, leur rappelant aussi leur maigre score au présidentiel. Et puis, il y a aussi une certaine attente de la part des militants PS. Les socialistes savent qu'ils ont une responsabilité à s'unir à cette nouvelle gauche. Et en ce 3 mai, date anniversaire de la victoire du Front populaire aux législatives, un accord entre les quatre gauches serait un symbole important, mais ce n'est pas encore gagné.
Julie Drouin, en direct avec les moyens technique de Clément Vuillet. Vous parliez des socialistes. On le sait, les négociations avec la France insoumise ne font pas l'unanimité. Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin et opposante au patron du PS, Olivier Faure. Hélène Geoffroy demande que les militants socialistes soient consultés si un accord avec les insoumis venait à être conclu. Comment les socialistes peuvent-ils signer la fin de tout ce pourquoi ils se sont battus? S'est interrogé ce matin sur France Inter le patron du Modem et soutien d'Emmanuel Macron, François Bayrou. Les partisans d'Emmanuel Macron, précisément, on voit petit à petit s'organiser à leur gauche une coalition concurrente, coalition emmenée donc par Jean-Luc Mélenchon, longtemps solitaire dans son camp. Le patron de la France insoumise est en passe de prendre sa revanche. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
C'est un pari qui est en passe d'être réussi par Jean-Luc Mélenchon.
Oui, parce qu'il faut se rappeler qui est Jean-Luc Mélenchon quand il claque la porte du PS en 2008. Le représentant d'une aile radicale, minoritaire, qui se sent alors méprisé par ceux qui ont été ses camarades pendant plus de 30 ans. Rupture violente et, selon le politologue spécialiste de la gauche Rémi Lefebvre, qui explique en partie ce qui est en train de se passer.
Il a subi des humiliations successives. Il a été victime de fraude au Congrès. Il a été ostracisé par François Hollande. Et il en a tiré effectivement un ressentiment. Et donc évidemment, c'est un des moteurs de aussi de cette alliance. C'est-à-dire l'idée à un moment donné de reprendre le dessus sur cette social-démocratie à qui il impute une forme de déchéance de la gauche. Et donc effectivement, c'est une bataille politique, mais c'est aussi une bataille psychologique et personnelle pour Jean-Luc Mélenchon.
14 ans plus tard, personne ne peut le contester, c'est bien lui le centre de gravité de la gauche. Voilà pourquoi, lui qui n'avait pas de mots assez durs contre les tambouilles d'appareil, souvenez-vous encore en début d'année de la primaire populaire, eh bien voilà pourquoi il accepte de tendre la main à ceux qu'il détestait hier encore. Une alliance pragmatique, les mélenchonistes assurent la survie politique de leurs partenaires qui, en contrepartie, leur apportent des troupes dont les insoumis manquent sur le terrain. Elle permettra peut-être, cette alliance, à Jean-Luc Mélenchon de devenir l'opposant numéro un. La question est de savoir si elle peut tenir pendant 5 ans.
Simon Le Baron, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas encore dit s'il serait candidat lui-même pour ces élections législatives. Hésitation aussi du côté d'Éric Zemmour, l'ancien journaliste du Figaro, arrivé 4e au premier tour de la présidentielle avec 7% des suffrages. Zemmour s'interroge, sans doute refroidi par la ligne dure du Rassemblement National. Le RN n'a rien oublié des trahisons de la campagne. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Le parti de Marine Le Pen ne fera aucun cadeau aux personnalités du parti Reconquête d'Éric Zemmour, ces personnalités qui souhaiteraient se lancer dans la bataille des législatives.
Non, depuis une semaine, rien n'y fait, ni les appels répétés à l'alliance d'Éric Zemmour, ni même les avis divergents en interne. Tous ceux qui voudraient se montrer plus coulants avec Reconquête se font au mieux envoyer promener, au pire sans pour Marine Le Pen, pas question de négocier avec celui qui l'a tant humiliée. Réaction d'Éric Zemmour hier soir sur BFM.
Le Rassemblement National veut la mort de Reconquête. C'est un fait. Marine Le Pen préfère essayer de tuer Reconquête plutôt que de revenir avec une force à 100, 150 élus.
Réponse ce matin sur France 2, Éric Zemmour a tout fait pour faire perdre Marine Le Pen et aujourd'hui, il vient lui demander de l'aide à se faire élire, attaque Jordan Bardella, ironisant ensuite sur les hésitations du chef de Reconquête.
On a là un parti qui s'appelle Reconquête et où tous les ténors, tous les cadres du parti ne veulent pas s'engager dans la bataille législative. En tout cas, même le chef de la famille, Éric Zemmour, hésite. Mais comment on peut hésiter quand on regarde la situation du pays? S'il hésite, c'est parce qu'il sait que lui-même ne pourra ni se qualifier au second tour, ni espérer être député à l'Assemblée nationale.
Jordan Bardella qui appelle en conséquence les électeurs d'Éric Zemmour à ne pas gaspiller leur voix. Un ex-RN soutien de Reconquête commente « Ils veulent nous tuer car ils ne supportent pas la concurrence. Notre seul espoir que leur résultat aux législatives soit moins bon qu'attendu. »
Élodie Forêt, c'est l'un des chevaux de bataille de l'extrême droite. La polémique sur le burkini rebondit à Grenoble. Le maire écologiste Éric Piolle veut autoriser le port de ce maillot couvrant des femmes musulmanes à partir du mois de juin, à l'ouverture des piscines municipales en extérieur. La délibération sera d'ailleurs soumise vendredi au conseil municipal grenoblois. Mais le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, menace de couper les subventions à la ville de Grenoble. Christophe Vincent.
Vendredi, Éric Piolle va proposer qu'on libère chacune et chacun de l'injonction de se vêtir dans les piscines, dans le seul respect des règles d'hygiène et de sécurité. Ce matin, le maire de Grenoble s'est montré plus précis.
Concrètement, ça veut dire que vous, monsieur, vous pourrez venir vous baigner de façon totalement libre, que vous, madame, vous pourrez venir vous baigner de façon totalement libre, la poitrine totalement libre si vous le souhaitez, avec un t-shirt couvrant pour vous protéger du soleil si vous craignez le soleil, ou pour n'importe quelle autre raison.
Y compris le burkini, donc.
Le burkini, c'est juste un maillot, en fait. Hein. C'est un maillot couvrant, voilà. Donc.
Pas un centime des Auvergnats-Rhône-Alpins ne financera votre soumission à l'islamisme, a tweeté Laurent Wauquiez. Le président LR de la région s'était déjà exprimé en mars dans l'hémicycle.
Quand le maire de Grenoble fait un tweet pour soutenir le combat des hijabeuses, quand, très clairement, il ouvre la voie à l'autorisation du port du burkini à l'intérieur de structures municipales de services publics telles que les piscines, il y a aujourd'hui un problème dans notre pays sur la façon dont nous concevons la République et dont nous concevons la laïcité.
Réponse d'Éric Piolle. Si Laurent Wauquiez a un problème avec la laïcité, qu'il interdise le voile dans les TER au lieu de s'occuper des piscines de Grenoble. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Emmanuel Macron s'entretient depuis plus d'une heure maintenant avec Vladimir Poutine. Premier entretien depuis la réélection du président français. Cela faisait plus d'un mois que les deux hommes ne s'étaient pas parlé. En Ukraine, à Mariupol, les évacuations de civils n'ont pu avoir lieu hier. Les autorités espèrent une reprise aujourd'hui. Selon le maire de cette ville, plus de 200 civils sont encore bloqués sous terre à Mariupol dans l'usine Azovstal. C'est la dernière poche de résistance de ce port sur les rives de la mer d'Azov. Hier, les ministres de l'énergie des 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour ne pas payer le gaz russe en roubles comme exigé par Moscou, ce qui pourrait entraîner des mesures de rétorsion. Nous devons nous préparer à une suspension des approvisionnements russes. Voilà l'avertissement de la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson. L'Europe cherche donc de nouveaux fournisseurs, ce qui explique sans doute ce revirement du côté d'Engie, l'énergéticien français. Il y a deux ans, Engie avait signé un contrat pour importer des États-Unis du gaz liquéfié. Le contrat avait été annulé par la France car ce gaz est issu du gaz de schiste. Changement de pied aujourd'hui, Delphine Simon, un producteur de gaz américain, annonce qu'un nouveau contrat a bien été signé avec les Français.
Ce revirement, c'est l'américain NextDecade qui l'officialise. Le producteur livrera chaque année 1 700 000 tonnes de gaz liquéfié pendant 15 ans à Engie, dont une part non précisée de gaz de schiste, ce gaz issu de la fracturation hydraulique qui représente 80% des exportations américaines. Il y a deux ans, l'État, actionnaire principal d'Engie, appuyait sur la pédale des freins en raison de risques pour l'environnement. Entre le gaz norvégien, néerlandais et le gaz de schiste américain, les émissions de carbone varient de 1 à 10. Cette fois, l'État donne son feu vert. Chez Engie, on met en avant la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement rendu plus aigu avec la guerre en Ukraine. Argument non recevable selon l'ONG Les Amis de la Terre, car dans le meilleur des cas, les livraisons de gaz ne débuteront pas avant 2026. Ce n'est donc pas une solution de court terme au problème en Europe. En mars, Engie a déjà prolongé et amplifié un autre contrat avec le numéro 1 américain du gaz liquéfié, Cheniere Energy.
Explication de Delphine Simon. Le Covid pousse la Chine à confiner une large partie de sa population. 25 millions de personnes confinées à Shanghai, à Pékin, les restaurants sont fermés et il faudra prochainement présenter un test négatif de moins de 48 heures pour accéder aux lieux publics. Autre conséquence de la pandémie, toujours en Asie, à Singapour, où les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Les travailleurs migrants musulmans achèvent un ramadan confiné en ce moment dans des dortoirs gigantesques et souvent surpeuplés. Des hommes venus notamment du Bangladesh qui subissent des règles sanitaires différente du reste de la population qui, elle, reprend en ce moment sa vie normale. Sur place, reportage Gabriel Maréchaux.
Ce jour de fête à Singapour, Zakir le passera dans son dortoir. Comme 300 000 autres hommes, ce Bangladais est venu dans cette ville ultra moderne pour aider sa famille et construire la skyline futuriste de Singapour autour de lui. Aujourd'hui, la confusion règne.
On n'était pas sûr de comprendre si on pouvait sortir du dortoir pour aller à la mosquée et prier ce matin. Les informations n'étaient pas claires. En fait, certains ont pu et beaucoup d'autres non, car pour sortir, en fait, il faut passer par une application où l'on peut demander la permission et avoir un pass d'accès.
Ceux qui n'ont pas pu sortir, raconte Zakir, ont tout de même revêtu leur habit de fête pour envoyer des photos à leurs proches que certains n'ont pourtant encore jamais rencontrés.
Pour un des hommes dans ma chambre, son fils est né juste avant le Covid. Maintenant, il peut parler, passer des appels vidéo à son père, mais ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. Un autre de mes colocataires, lui, s'est marié par vidéoconférence en juin 2020, mais il n'a toujours pas rencontré sa femme en personne.
Avec des frontières longtemps fermées, des hommes qui se sont souvent endettés pour venir travailler, rentrer au pays est devenu pour beaucoup un mirage. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux, France Inter.
Singapour, où la liberté de la presse est quasi inexistante, l'association Reporters sans frontières publie aujourd'hui son classement international. On retiendra la chute de Hong Kong, désormais au 148e rang mondial. La France, elle, se classe 26e. Elle était 34e l'an dernier. Un journaliste français est toujours otage au Mali. Olivier Dubois, retenu depuis bientôt 13 mois. Son comité de soutien organise ce week-end une grande marche en faveur de sa libération. opération, ce sera dimanche, entre Metz et Nancy. La junte militaire malienne, elle s'éloigne un peu plus de la France. Bamako a annoncé hier soir déchirer deux accords de défense, l'un avec Paris, l'autre avec l'Union européenne. Tout cela alors que le départ des militaires français du pays se poursuit. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Est-ce que cette décision implique des conséquences immédiates ?
Effectivement, la question se pose parce que cette décision, en fait, elle porte sur deux types d'accords. L'accord de coopération militaire qui était passé entre la France et le Mali en 2014 et les accords SOFA qui fixent le cadre de la présence des forces françaises de Barkhane et des forces spéciales européennes de Takuba. Alors la décision concernant ces accords SOFA est à effet immédiat, ce qui veut dire en gros qu'à partir de demain, la présence de ces soldats est illégal. Le calendrier de départ compliqué de Barkhane qui devait se faire progressivement vole donc en éclats. Paris est au pied du mur, coincé par une situation périlleuse, lourde de conséquences à gérer dans l'urgence. Le Mali accuse la France d'avoir porté atteinte à sa souveraineté en annonçant unilatéralement le retrait de Barkhane en février dernier ou encore d'avoir violé son espace aérien à plusieurs reprises. Le contexte est ultra tendu depuis que la junte au pouvoir a refusé de rendre le pouvoir aux civils sur fond d'arrivée au Mali des mercenaires de Wagner, une ligne rouge dénoncée par la France. Depuis, la crise va en s'intensifiant. Guerre d'information sur les réseaux sociaux sous influence russe, avec une rhétorique exacerbée de la junte qui fait du départ des Français un point de ralliement de toute la population.
Précision de Claude Guibal. C'est un chiffre record pour l'administration pénitentiaire française. Plus de 85 000 personnes purgeaient une peine au 1er avril dernier dans notre pays. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Le nombre de personnes écrouées en France atteint des sommets.
Oui, il y avait en France le 1er avril précisément 86 518 personnes écrouées. Écrouées, ça veut dire celles qui ont un numéro d'écrou, donc qui dépendent de l'administration pénitentiaire. Et c'est là qu'il faut distinguer les détenus, donc les personnes en prison, 71 000, et ceux qui purgent leur peine dehors, comme par exemple sous bracelet électronique, un peu moins de 15 500. Le nombre de personnes écrouées, les deux donc, a augmenté de 8% en France en un an. L'Observatoire international des prisons explique cette hausse par un recours de plus en plus important aux comparutions immédiates, qui aboutissent le plus souvent à une peine de prison ferme. De plus en plus de délits ont été créés aussi. Les peines prononcées sont plus longues, 11 mois en moyenne. Tout ça a donc des conséquences sur le nombre de personnes condamnées, même s'il ne faut pas perdre de vue que dans les prisons françaises, un quart des détenus sont des prévenus, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas encore été jugés.
Ariane Grissel, la Ligue de football professionnelle française va-t-elle ouvrir une instruction contre le club de Reims? Dimanche, certains de ses supporters ont brandi un symbole d'extrême droite lors d'un déplacement à Lorient. Condamnation du club de Reims dont le président explique qu'il n'y aura, je cite, aucune tolérance, aucun cadeau. Le foot côté terrain ce soir, c'est la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Villarreal-Liverpool, 21h à l'aller. Les Anglais s'étaient imposés 2-0. On en vient à l'information qui fait rêver tous les fans de basket en France. L'une des plus grandes stars du jeu, le Camerounais Joël Embiid, pourrait prochainement jouer pour l'équipe de France. Le pivot des Sixers de Philadelphie dispute actuellement les playoffs en NBA et il a entamé, Fanny Lechevestrier, des démarches administratives pour être naturalisé.
Oui, le manager de l'équipe de France, Boris Diaw, confirme aujourd'hui les démarches personnelles lancées par la star de la NBA pour obtenir la nationalité française. On en est donc au début du processus, mais c'est vrai que si cela va à son terme, à 2 ans des Jeux de Paris, l'équipe de France, vice-championne olympique, pourrait avoir tout d'une tête d'affiche en or, avec Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum et donc Joël Embiid, le géant camerounais de 2m13, prétendant au titre de meilleur joueur du championnat de basket américain cette saison. Après, la démarche heure aussi certains au sein même de l'équipe de France. À 28 ans, Embiid n'a en effet jamais vécu en France. Il a quitté le Cameroun pour les États-Unis à l'adolescence. Alors pourquoi vouloir jouer pour les Bleus? Dans une interview au journal L'Équipe en 2018, le joueur qui parle français expliquait avoir passé des vacances scolaires chez ses oncles et tantes à Paris, ajoutant « adorer la nourriture française, Roland-Garros et rêver même de faire le Tour de France dans la voiture du directeur de course ». Rappelons qu'en basket, la Fédération internationale autorise un seul joueur naturalisé par sélection.
Embiid, donc pivot des Sixers, Philadelphie, qui a été battu cette nuit dans la première manche lors des playoffs NBA par Miami.
Innovation des laboratoires LIERAC. Sécheresse, perte de densité, relâchement, notre peau aussi subit la ménopause. LIERAC, expert de la ménopause depuis 25 ans, réinvente les soins Arc et Skin. Un programme complet visage et corps, recommandé par les gynécologues pour une peau redensifiée et nourrie. 9 femmes sur 10 se sentent mieux dans leur corps et dans leur peau. En ce moment, pour l'achat d'un soin Arkeskin Jour, votre soin complémentaire nuit offert. Dans la limite des stocks disponibles en pharmacie, parapharmacie et sur lirac.com. Détails des tests cliniques sur lirac.com.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux. Alors écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez du plaisir dans votre assiette avec une bonne viande de bœuf pleine de goût, bah, il faut des races de terroir, celles qui broutent de l'herbe des prés la majeure partie de l'année et qui mangent du foin de la ferme le reste du temps. Et là, croyez-moi, le plaisir, il est là.
Mais vous êtes éleveuse ?
Ah non, pas du tout, moi je suis institutrice. Mais bah, je m'intéresse à ce que je mets dans mon assiette, pas vous ?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
France Inter M.
Varsovie 83, une affaire d'État. Un film du cinéaste polonais Jan P. Matuszewski.
Pozwolę sobie zaznaczyć, że mój resort jest niewinny.
À Varsovie, en 1983, le fils d'une militante proche de Solidarność est battu à mort par la police.
Jurek, musisz się ukryć.
Le régime totalitaire du général Jaruzelski va tout faire pour empêcher la tenue d'un procès équitable.
Od upadku przypadkowego czasu?
Varsovie 83, un thriller politique, le 4 mai au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Jérôme.
Les nuages ont du mal à décoller près de la Manche.
Ouais, effectivement, le ciel est bien gris en ce moment entre la Bretagne et le Cotentin et sur les plages normandes. Mais soyez patients, le soleil devrait gagner maintenant assez rapidement la partie. Cet après-midi, vous allez profiter de belles éclaircies entre Poitou-Charentes et les Pays de la Loire, de la Bretagne aux Hauts-de-France en passant par la Normandie, du centre Val-de-Loire à la région parisienne et jusque vers le Grand Est. En revanche, vous retrouverez un temps instable avec des averses des Pyrénées au Languedoc-Roussillon, du Massif central aux différents massifs de l'Est. Et puis comme hier, ces averses vont prendre un caractère orageux en cours d'après-midi. Ces orages vont glisser vers la Côte d'Azur. Seule la basse vallée du Rhône et la Corse seront épargnées. Côté température, les maximales assez homogènes évolueront entre 17 et 23 degrés du nord au sud.
Jean-Pierre Hameau, Météo France, merci à vous.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est un constat amer comme un réquisitoire rédigé après 5 années passées à l'Assemblée nationale comme député. Un témoignage sous forme de journal de bord intitulé « Un Parlement en toc ». C'est un livre que vous venez de publier. Annie Chapelier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pour quelques jours encore député de la 4e circonscription du Gard. Vous aviez été élu en 2017 sous l'étiquette « La République en marche ». Vous étiez à l'époque infirmière anesthésiste. Vous étiez engagée aux côtés d'Emmanuel Macron. Je précise que vous ne vous représentez pas lors des élections législatives qui arrivent. Les auditeurs de France Inter vous interrogent, vous questionnent au 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter sur les réseaux sociaux. Annie Chapelier, avant de vous donner la parole, je voudrais vous citer. C'est un passage du livre que vous publiez. « J'ai été, écrivez-vous, au cœur du fonctionnement républicain et mon constat est sans appel. Nous ne pouvons remplir le rôle qui nous est dévolu. La mise en scène est trompeuse. » Tout le monde y croit, mais notre rôle est factice et c'est de mon devoir de dénoncer ce que l'immense majorité de mes collègues reconnaissent mais n'osent exprimer, que le mal est profond et qu'une seule chose s'impose, une réforme constitutionnelle majeure à l'instar de celle de 1958. Il y a urgence, c'est une question de survie démocratique. Au fond, qu'est-ce qui vous a le plus déçu dans votre expérience de député ?
Tout d'abord, je précise qu'il ne s'agit pas vraiment, il ne s'agit même pas du tout de déception, mais réellement le besoin de lancer ce cri d'alerte.
Enfin, vous ne vous attendiez pas à ça lorsque vous avez été élu.
La question de savoir à quoi moi je m'attendais importe finalement peu. Je suis une citoyenne qui croit dans les institutions républicaines. Et je suis venue en politique pour être utile, pour remplir ce rôle de parlementaire et servir la France. De grands mots qu'on utilise en permanence, mais qui chez moi avaient vraiment sens. Et au bout de quelques mois, pas besoin d'attendre les 5 années totalement, je me suis rapidement rendu compte que cela ne fonctionnait pas. Et je souhaite vraiment remettre cela dans le contexte international. Nous sommes dans un contexte où il y a la guerre à la porte de l'Europe, où Vladimir Poutine, avec d'autres pays, souhaite avant tout déstabiliser ce modèle occidental démocratique.
Je précise que vous avez quitté le groupe La République En Marche bien avant l'invasion en Ukraine. C'était début 2020, avant la pandémie.
Bien entendu, bien avant l'invasion, effectivement, de la Russie. Mais le contexte international géopolitique était déjà très instable et ne cesse de l'être toujours davantage. Et nous avons les yeux rivés sur ce qui se passe en Ukraine, mais nous nous fragilisons nous-mêmes de l'intérieur avec une démocratie qui est balbutiante, avec des Français qui ne croient plus dans les institutions, qui ne croient plus en leurs représentants.
Mais concrètement, vous dites qu'il n'y a pas de contradiction possible, il n'y a pas de débat, il n'y avait pas de débat possible au sein du groupe La République En Marche, par exemple.
Si on se limite à ce qui a pu se passer en interne dans La République En Marche, le groupe pléthorique que nous étions a été la justification à ne pas permettre le débat. Alors que, généralement, le nombre permet d'apporter des atouts, apporte des expertises plus larges, apporte des avis différents et on ne cesse de répéter des phrases un peu creuses comme « les différences nous enrichissent », mais finalement, on n'a pas envie de s'enrichir.
Vous
préfère rester dans son camp à soi.
Vous attendiez quoi ?
Je m'attendais à être une parlementaire qui pourrait faire entendre sa voix, faire servir d'articulation entre mon territoire, les problèmes très importants qu'il y a sur mon territoire et les politiques publiques. Et cela n'a jamais pu être possible parce qu'il y a un désintérêt total de ce qui se passe sur les territoires dans ce cercle clos que sont les ministères, que sont la haute fonction publique. On est dans un univers fermé et on le voit même aujourd'hui pour les législatives où l'on est dans des tractations encore d'appareil et où finalement on ne se préoccupe pas de savoir comment ressentent les Français cette élection à venir, que sont celles des législatives.
Vous racontez aussi dans votre livre le poids des lobbies. Est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement comment ils interviennent dans le travail d'un député ?
Ils interviennent en nous approchant parfois. Très rapidement, ils identifient les parlementaires avec lesquels ils savent qu'ils ne pourront avoir de prise.
Vous avez été vous-même approché ? Vous avez un exemple ?
Bien entendu, en début de mandat, par des grands groupes, par exemple au niveau de la santé. Il y a eu le scandale Orpea, par exemple, mais ces grands groupes privés à but lucratif se sont rapprochés de l'ensemble des parlementaires. Il y a des groupes de lobby qui travaillent dans le milieu de la santé, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé.
Mais c'est quoi ? Ce sont des documents qu'on vous remet, des notes en vous disant, voilà, peut-être vous voulez des informations, ou ça va un peu plus loin ?
Écoutez, je ne dévoile absolument aucun secret. Ce sont des invitations à des repas, où l'on parle d'un sujet en particulier, avec des personnalités qui sont invitées, souvent rémunérées pour cela. Et ces groupes de lobby, tout le monde en connaît le fonctionnement, ils font partie intrinsèquement, finalement, de l'Assemblée nationale, que ce soit aux affaires étrangères, que ce soit à la défense, que ce soit aux affaires sociales.
Et ça vous contraint pas dans vos votes, Annie Chapelier, quand vous êtes à l'Assemblée ?
Ça ne contraint pas d'aller voter, mais on sent bien que ce qui émane de ces groupes de lobby ainsi que des think tanks, qui sont extrêmement écoutés, amène à choisir la teneur des textes. Nous, les parlementaires, ne pouvons pas travailler sur les textes, ne pouvons pas modifier les textes, ne pouvons pas apporter quelque chose dans les textes. La machine ne fonctionne plus. Nous ne sommes là plus que pour un décorum, pour un jeu de rôle.
Et vous avez le sentiment que ces textes ne sont pas écrits par des parlementaires ou par leurs équipes ? Les textes qui sont votés à l'Assemblée nationale ?
Mais ils ne sont jamais écrits par des parlementaires.
Par qui alors ?
Ils sont écrits par les ministères qui eux-mêmes les délèguent à leur cabinet ministériel, qui eux-mêmes les font travailler par des cabinets de conseil parfois, pas toujours. Et dans une succession ainsi de personnes, on se retrouve avec des textes qui ont pour objectif un mot d'ordre qui est surtout « ne changeons rien » ou très peu pour donner l'illusion que nous changeons. Sur les sujets majeurs qui sont du domaine de l'urgence, l'égalité homme-femme, la réforme constitutionnelle, par exemple, ou l'environnement, les modifications sont toujours à la marge, quasiment du maquillage, et non plus réellement des changements en profondeur dont nous avons besoin et que réclament les Français.
Vos questions pour Annie Chapelier au 01 45 24 7000, c'est le numéro qu'a composé Yves. Bonjour Yves.
Bonjour messieurs dames.
Je précise que vous nous appelez du département du Gard précisément
et de la quatrième.
Voilà, de la circonscription d'Annie Chapelier. Nous vous écoutons, Yves.
Eh bien, j'aimerais savoir pourquoi Madame Chapelier a accepté d'être candidate et donc députée dans le groupe La République en Marche. J'aimerais savoir si c'est par naïveté ou par conviction politique, sachant très bien que ce groupe devait allégeance totale au président Macron. Et j'aimerais également savoir pourquoi elle a voté autant de lois qui était manifestement, semble-t-il, à l'encontre de ses idées.
Annie Chapelier vous répond. Merci Yves pour votre appel.
Bonjour Yves, je suis venue en politique derrière Emmanuel Macron car il m'avait semblé en 2017 porter ce dont nous avions besoin, un changement, un bouleversement profond. Voilà pourquoi je suis venue en politique derrière Emmanuel Macron. J'ai voté des lois qui me convenaient, il y en a beaucoup aussi que je n'ai pas voté, ce qui a fait que je me suis trouvée très rapidement ostracisée dans le groupe de La République En Marche. Voilà pour répondre à vos interrogations. Et cela, mon comportement personnel finalement, est finalement qu'une marge de ce que est devenue cette institution.
Mais sur l'inefficacité supposée, en tout cas que vous dénoncez des députés, ou le fait qu'il n'ait pas un rôle à part entière dans la démocratie aujourd'hui, il y a tout de même des propositions de loi qui sont votées à l'Assemblée nationale. Je prendrai deux exemples. L'allongement du délai légal de l'IVG qui est passé de 12 à 14 semaines de grossesse, c'était une proposition de loi. L'interdiction en France des thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles, là encore une proposition de loi adoptée. Ça, c'est concret, Annie Chapelier.
Bien sûr que c'est concret. Et nous sommes extrêmement fiers d'avoir réussi à pouvoir porter ces deux propositions de loi que vous citez, en particulier celle de l'IVG, avec laquelle j'ai collaboré avec ma collègue Albane Gaillot, que je salue pour son engagement et sa ténacité. Et c'est parce qu'elle a fait preuve de ténacité et parce que nous sommes retrouvés dans un contexte politique où il fallait apporter un mouvement, un moment qui marquait les esprits, que le président de la République a permis in petto d'autoriser que cette loi finisse par aboutir. J'ai moi-même porté une loi, une proposition de loi que j'ai moi-même rédigée, qui émane donc d'une parlementaire sur les sages-femmes, que j'ai dû réduire à sa plus simple expression et qui n'a pas réussi à franchir la limite de l'Assemblée nationale où elle a été votée, pour que justement, parce qu'il n'y a pas d'intention à ce que l'on fasse aboutir quelque chose qui modifie la vie, par exemple des sages-femmes. Je salue encore et toujours ce texte sur l'IVG, mais on ne peut pas s'arrêter comme ça à un point, alors que les réformes à apporter sont immenses et que là, on est sur un point pour lequel il faut dépenser une énergie, des convictions, un temps que vous ne pouvez imaginer.
Alors, je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur de France Inter qui nous appelle. C'est pas n'importe quel auditeur, c'est Jimmy Pain, en l'occurrence, qui est député du Morbihan, député du Modem. Il a un profil comparable au vôtre en la matière. Bonjour Jimmy Pain, puisqu'il est issu, comme on dit, de la société civile. Bonjour à vous.
Oui, bonjour. Bonjour et bonjour à Annie. Bonjour à madame.
Bonjour Jimmy.
Vous connaissez évidemment. Vous aviez, je crois, un éclairage un peu contradictoire à apporter. On vous écoute.
Oui, oui. Et puis ça me fait de la peine de voir Annie quitter l'Assemblée nationale, parce que vraiment, on s'est battu souvent sur des tas de choses environnementales et tout. Mais dire qu'on avance, qu'on est capable de faire des choses. Moi, j'ai fait passer une loi sur le foncier agricole en zone littorale. J'ai travaillé sur les négociations sur la haute mer. J'ai travaillé sur les pôles. Enfin bref, moi je suis l'inverse finalement d'Annie sur ce mandat, où moi j'ai réussi, n'ayant ni bac, étant ancien marin pêcheur, ayant vraiment peu, je dirais, de bagage intellectuel au début, à réussir à faire passer pas mal de choses, je trouve, sur ce mandat.
Est-ce que vous vous représentez, Jimmy Pain ? Alors, je sais que Emmanuel Macron tranche personnellement en ce moment sur les investitures, mais est-ce que vous avez une réponse ?
Parlez-en de lui. Oui, évidemment que je souhaite me représenter, parce que justement, j'ai encore plein de choses à faire avancer et plein de choses auxquelles je crois. Par exemple, le discours de Marseille sur le fait que ce Premier ministre devra prendre en charge directement les dossiers environnementaux et ainsi de suite. Et vraiment, Annie va nous manquer. Je suis au MoDem, donc je n'étais pas dans cette grande machine qu'est La République En Marche et qui a peut-être empêché à certains le droit de s'exprimer un peu plus. Mais vraiment, je regrette le départ d'Annie. Voilà.
Voilà le témoignage de Jimmy Pain, député du Morbihan, qui nous a appelé spontanément. Votre réaction, Annie Chapelier ?
C'est un témoignage qui me touche. Merci Jimmy pour tes propos. Mais le constat que nous faisons est complètement différent. Moi, je pense que si l'on veut être utile et pouvoir servir la France, il faut être ailleurs qu'à l'Assemblée nationale. Et quand je parle de réforme constitutionnelle, je ne parle pas des points de presque, j'ai envie de dire, de détails que vous avez évoqué. C'est bel et bien la nécessité d'une transformation en profondeur où le rôle du Parlement devient réel. Je ne suis pas la seule à le dire, loin s'en faut. Tous les experts justement en politique ne cessent de le dire. Je lisais un philosophe qui parlait d'une démocratie fatiguée qui donnait un rôle quasiment marginal, une fois de plus, à ce Parlement. Donc vraiment la nécessité s'impose. Sinon, les Français ne s'y reconnaîtront plus. Et un seul point, parce que je vois que vous souhaitez m'interrompre, il y a en plus cette urgence constitutionnelle, il y a réellement la nécessité d'amener enfin des femmes à des postes clés. Et je pense à la première...
Il y a eu plus de femmes députées là, sur la...
Il y en a eu davantage, mais je ne parle pas de cela. Je parle à justement ces postes clés comme celui de Premier ministre. Nous avons besoin d'une Première ministre. Il y a eu un quinquennat dont c'était la grande cause nationale l'égalité hommes-femmes. Ça s'est soldé par quoi ? Des réunions d'hommes politiques où il n'y a que des hommes et qui continuent à n'être qu'entre hommes et on ne pourra jamais changer. Et je rappelle simplement que la moitié des Français sont des Françaises.
Et qu'il faut plus de place pour les femmes en politique.
C'est pas de la place. Ce n'est pas laisser de la place. C'est réellement prendre en considération ce qu'est devenue la société française.
Que faites-vous après le mois de juin, Annie Chapelier ?
Ça ne regarde que moi, mais bon. Ce sera forcément dans la santé.
Puisque vous étiez infirmière anesthésiste avant votre mandat, vous retournez à l'hôpital ? Pas forcément ?
Je retournerai à l'hôpital.
Merci à vous en tout cas d'avoir accepté l'invitation de France Inter dans ce 13-14. Je renvoie à ce livre que vous publiez, Un Parlement en toc. C'est aux éditions Nombre 7. C'est disponible sur commande, sur internet ou en librairie.
Préfacé par Madame Marie de Venezel.
Merci.
Je vous remercie.
France Inter. Le 13-14.
Au programme jusqu'à 14h, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Jérôme.
Vous allez nous parler d'un territoire méconnu, mais qui est au cœur de l'actualité, c'est la Transnistrie.
C'est un nom qu'on pourrait oublier peut-être d'ailleurs.
Bon, mais nous ne l'oublions pas, puisque nous en parlons dans 10 minutes avec vous, notre feuilleton au Conservatoire de Musique de Marseille, où les places sont chères pour les apprentis musiciens. Et tout de suite, c'est une chanson. Avant la deuxième édition du prix Michel Legrand, qui aura lieu dimanche prochain. Le 8 mai, ce prix récompense des compositeurs de musique de films. Et ce prix a été créé par l'actrice et écrivaine Macha Merrill, la dernière épouse de Michel Legrand, Macha Merrill, rencontrée par Frédéric Pommier.
C'est une chanson de 1972 qu'a choisi de nous faire écouter Macha Merrill. Dans le même instant, composé par Michel Legrand sur des paroles de Jean Dréjac, un titre que Michel Legrand a réenregistré en 1995 pour son album Présence, une version piano-voix, et c'est cette version-là qui concluait l'hommage rendu au compositeur le jour de ses obsèques, un hommage conçu notamment par Macha Merrill, sa dernière épouse, pour qui cette chanson compte énormément.
Michel, sous des apparences d'être un homme de joie et d'entrain, était un mélancolique. Il y avait en lui cette veine, je dirais, d'humanité brisée, comme si les gens n'étaient pas assez gentils les uns avec les autres, comme si l'humanité avait besoin de la musique, justement, pour surpasser tout ça. Et cette chanson, qui a été jouée le jour de ses obsèques, elle dit que life goes on, c'est-à-dire que la vie continue, que non seulement elle continue, mais peut-être qu'elle se répète. En tout cas, c'était une des convictions de Michel, c'est qu'on se retrouve après la mort, et puis aussi que on revient. Qui dit le contraire ? On n'en est pas sûr. Donc, pourquoi pas y croire ?
Écrire de la musique et laisser sur terre de la musique, c'est une façon de ne jamais mourir.
Ah, ben voilà. Absolument. Il y a deux formes comme ça, c'est la poésie et la musique. Le cinéma, le théâtre, c'est plus fugace, c'est plus changeant. Et lui-même, il pensait que la musique, c'était un art supérieur qui va directement de l'âme vers le ciel. Et puis, il a écrit des choses tellement différentes les unes des autres qu'on est toujours étonné quand on entend ses musiques. Et moi, j'ai plaisir à faire connaître des musiques moins connues, moins rabâchées de Michel. Il n'est pas seulement un compositeur des films de Jacques Demy. Il est un grand compositeur, point.
Dans le même instant,
la même seconde.
Quand vous entendez cette chanson-là aujourd'hui, elle vous replonge à quel moment de votre vie ?
Oh, c'est compliqué, mais elle me ramène à ces derniers instants que j'ai vécu avec lui. Il est mort dans mes bras, d'une façon douce et sereine, sans peur. Et il m'a passé ça, il m'a passé cette insouciance. Et donc, c'est ça que je retiens de cette chanson.
Dans le même instant, la même seconde, à travers le monde, à travers le temps, dans le même instant, à travers l'espace, dans le temps qui passe, en nous emportant dans le même instant. D'autres mondes naissent, d'autres disparaissent à travers les cieux.
Dans le même instant de Michel Legrand, le choix de Macha Merrill, la créatrice du prix Michel Legrand, qui sera décerné dimanche. Merci à vous, Frédéric Pommier. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton au Conservatoire de Marseille. Cette semaine, nous poursuivons la visite avec son directeur, le jazzman Raphaël Humbert. Avec près de 90 professeurs, le Conservatoire accueille plus de 1500 élèves, de l'éveil musical au futur professionnel. Et ici, comme dans d'autres grandes villes, les places sont très demandées.
J'adore balader dans les couloirs. Parfois, j'ouvre même les portes, je vais aller voir un peu les cours, les gens qui travaillent. J'adore l'ambiance qu'on entend, enfin, le mélange de toutes les musiques parfois. C'est très créatif en fait. Ça peut même donner des idées. Quand on entend là, par exemple, on a de la clarinette basse qui travaille dans une salle et on entend un ténor en train de travailler en haut sur un tout autre répertoire. Ça crée des mélanges assez intéressants parfois.
Vous avez un peu plus de 1500 élèves ici. Est-ce que c'est difficile d'entrer au Conservatoire de Marseille ? Comment on y rentre ?
Alors, rentrer au Conservatoire de Marseille, oui, c'est difficile. C'est difficile parce que on a un nombre de professeurs, de temps pédagogique qui est limité, en fait, par définition. On a 90 équivalents temps plein. Il y a évidemment, sur le principe, pas de place pour tout le monde. Et c'est vrai que, vous voyez, ça m'écorche un petit peu la bouche de le dire, parce que, évidemment, qu'on aimerait accueillir tout le monde. Et donc, il y a un concours d'entrée. Alors d'une certaine manière, moi j'aime bien cette idée de concours d'entrée parce que ça donne même l'idée aussi que, entre guillemets, ça se mérite. Malgré le fait qu'on ait aussi ouvert une vraie politique d'éveil musical. C'est-à-dire que là, on intègre beaucoup de petits-enfants entre 6-7 ans qui viennent ici découvrir la musique sans l'instrument pour pouvoir après être instrumentés. Bonjour Arsène, ça va ? Oui, très bien. Arsène est un élève de Claire qui par ailleurs a une carrière de youtubeur. Ça cartonne, je sais pas combien il est de nombre de followers, c'est absolument impressionnant. Donc c'est une de nos jeunes stars du conservatoire.
Je m'appelle Arsène Coulanges-Manayan, je fais de la flûte traversière. Donc là ça fait je pense la 12e année que j'en fais. J'ai 17 ans.
Vous passez le bac cette année, c'est ça ?
Oui, c'est ça aussi. L'année prochaine, je vais me présenter pour Aix, Aix-en-Provence, donc le perfectionnement, pour préparer pour les grandes écoles comme le CNSM de Paris ou de Lyon.
Les conservatoires nationaux.
Oui. Mmh. Voilà, c'est ça.
Le but d'un conservatoire, c'est aussi de préparer des musiciens professionnels. Donc c'est quoi le parcours ?
La première mission, c'est de former l'amateur, au sens large du terme. Celui qui aime la musique, qui aime le théâtre, et qui va en faire quelque chose de central dans sa vie, que ce soit professionnel ou pas. Parmi tous ces gens-là, il y en a certains qui veulent devenir professionnels. Et effectivement, nous sommes missionnés pour les amener jusqu'à un diplôme, qu'on appelle dans le cadre de la musique le DEM, le diplôme d'études musicales, qui est vraiment le diplôme qui ouvre la perspective de l'enseignement supérieur.
Est-ce que vous, Raphaël Humbert, vous allez trouver encore le temps pour votre quartet, vos compositions ?
C'est la grande question. J'ai une chance incroyable ici, c'est d'avoir une équipe de direction, une équipe administrative vraiment super. J'ai appris un truc fondamental en devenant directeur de conservatoire, c'est déléguer. Tous mes amis me disent oh, « tu dois plus avoir le temps de faire de la musique ». Mais en fait, j'en fais même plus qu'avant. J'en fais avec les élèves, j'en fais avec les profs. Vous avez vu mon bureau, pour composer, c'est quand même le paradis. J'ai les pianos de Barbizé à disposition. Parfois, je manque un peu de sommeil, vraiment. Mais c'est passionnant. Je vous avoue que j'avais très peur en prenant ce travail. Au contraire, je trouve ça extrêmement inspirant.
Une semaine dans leur vie au Conservatoire de Marseille. Reportage signé Sarah Guibaudot, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire avec vous, Jean Lebrun. Vous nous parlez de la Transnistrie. Alors pour comprendre, nous allons tracer deux lignes sur la carte de l'Ukraine. L'une horizontale à l'est, la mer d'Azov avec Mariupol toujours assiégée, et plus à l'ouest, Odessa et Nikolaïev qui la protègent jusqu'ici. Objectif de Poutine, faire de la mer Noire un lac russe. Et puis une ligne verticale correspondant au cours du Niestre, un territoire déjà sous contrôle russe qui porte le nom de Transnistrie. Les deux lignes, en se rejoignant, enclaveraient totalement l'Ukraine.
Alors, on va partir du Niestre. Évidemment, vous avez une carte, vous, Jérôme.
Bien sûr.
Alors, c'est le fleuve par lequel circulaient les richesses céréalières de l'Ukraine qui se jette dans une grande lagune, vous voyez, au contact de la mer Noire.
C'est ça.
Non loin de cette lagune, Odessa, le grand port exportateur. Et en amont de la lagune, sur 450 kilomètres, regardez bien. Le Niestre est largement contrôlé depuis 30 ans par une pseudo-administration qui n'est ni à l'est du fleuve, l'Ukraine indépendante, ni à l'ouest du fleuve, la Moldavie indépendante. C'est la Transnistrie, une bande de territoire, en effet, fort longue, mais très peu large, parfois une dizaine de kilomètres seulement. À la fin de l'URSS, la Transnistrie, où on parle roumain, russe, ukrainien, a refusé de rester jointe à l'ex-république soviétique de Moldavie qui prenait son envol, et encore moins à l'Ukraine. Et des combattants séparatistes, appuyés par la 4e armée russe, ont contenu les soldats moldaves et créé cette entité qui n'est reconnue par aucun État. La capitale, vous voyez, en est Tiraspol. Les rares visiteurs étrangers, il n'y a pas la place, c'est pas assez large pour un aéroport civil, constatent qu'on y cultive la nostalgie de l'URSS. Une grande statue de Lénine trône encore en plein centre. Un petit musée à côté présente sous le titre « Rivière de sang » les combats qui eurent lieu en 1992 à la fin de l'URSS. Règne sur place un capitalisme de contrebande, fondé sur le jeu avec les taxes différenciées, importation, exportation, fixées par les pays voisins. Après l'invasion de l'Ukraine, le conflit de Transnistrie, qui était gelé depuis 1992, s'est soudain réchauffé. Il y a beaucoup de provocations ces temps-ci. Il faut se méfier du dégel dans ces régions. On l'appelle « Rasputitsa ». Les eaux peuvent monter à des niveaux extrêmes.
Pendant ce temps, du côté ukrainien, Odessa se prépare au pire.
La propagande russe incrimine les nazis d'Ukraine et maintenant de Moldavie. Le ministre Lavrov laisse entendre que Zelensky, d'origine juive, peut être nazi puisque Hitler lui-même avait du sang juif. Alors je voyais des photos de l'opéra d'Odessa, protégé aujourd'hui par des sacs de sable, et me sont revenus en mémoire les longues conversations que j'ai eues autour de la période 41-44 qu'avait vécu là-bas un vieil ami depuis longtemps disparu, un peintre roumain, qui tenait, pendant cette période 41-44, le poste de décorateur de cet opéra. Georges Tomasi, c'était son nom, était en réalité espion pour le compte de Sa Majesté britannique, qu'il devait renseigner sur ce qui se passait dans la région qu'on appelait déjà la Transnistrie. Non sinistre, en fait. En 41, Hitler avait entraîné dans l'invasion de l'URSS son allié, la Roumanie, dirigée par un conducateur. Ça en dit long, ce nom. Le maréchal Antonescu. En échange, il avait donné à Antonescu la Moldavie et il avait ajouté en prime la Transnistrie, qui était alors un territoire beaucoup plus large qu'aujourd'hui et qui incluait Odessa. Tomasi me racontait l'opéra, avec ses soirées, l'ancienne bonne société comme ressuscitée, et le jour, les massacres inouïs. Antonescu voulait déporter les Juifs de Roumanie en Transnistrie, dans des camps de travail où ils mourraient ou seraient stérilisés, quand c'était pas dans des porcheries industrielles reconverties. Mais Hitler, de son côté, voulait aller plus loin. Le meurtre de masse allait plus vite de la déportation de masse. Et quand lui parlait de réinstallation des Juifs dans cette zone, il pensait à des espaces où les Juifs creuseraient des tranchées, où ils seraient aussitôt abattus par balles, la Shoah par balles. Ça s'est passé aussi en Transnistrie. Mon ami Georges Tomasi me raconta ainsi une de ces journées terribles aux côtés d'un colonel allemand dont il était chargé d'épier les faits et gestes. Néanmoins, la Transnistrie ne fut pas aussi longtemps un cercle de l'enfer que l'Ukraine occupée par les Allemands. Antonescu, en effet, cherchait à préparer sa défense face aux alliés dont il savait qu'ils allaient gagner. Au total, la Roumanie a tué 300 000 juifs en Transnistrie, mais fin 1942, c'en était déjà fini. Bucarest, cherchant à changer de camp. Ce chiffre que je cite, je le trouve dans le livre de l'historien américain Timothy Snyder, qui vient d'être édité de nouveau par Gallimard et qui s'appelle « Terre de sang ». Terre de sang, rivière de sang, voyez, le mot Transnistrie, on préférerait l'oublier.
Timothy Snyder, Terre de sang, la nouvelle édition, sort chez Gallimard cette semaine, ce 5 mai.